Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambeau.
Bonjour à tous, merci d'être une nouvelle fois à l'écoute d'Humeur de Ville, l'émission qui parle des nouveaux modes de faire la ville avec des aménageurs d'Île-de-France. Nous retournons ce mois-ci dans l'Est francilien et recevons François Bourvy, qui est le directeur général de la SPL Marne-aux-Bois, qui couvre les besoins de plusieurs villes du Val-de-Marne et de l'EPT Paris-Est Marne-et-Bois. Mais avant cela, Rémi Cambeau, le rédacteur en chef de Cadre de Ville, va nous parler nature et gare.
Oui, merci Lucie. En effet, je voudrais parler de la nature en ville. À propos de ce territoire de 13 communes qui a choisi de s'appeler Paris-Est, Marne et Bois. Tout est dans le nom. On y trouve en effet un bois, le bois de Vincennes, géré par la ville de Paris, et une rivière, la Marne, avec ses berges et ses îles. Et tous les deux sont de formidables réservoirs et corridors de biodiversité. Alors justement, Paris-Est, Marne et Bois a choisi de devenir en 2020 territoire engagé pour la nature. C'est un dispositif national, couplé avec la candidature de capitale française de la biodiversité et conduit par l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Alors ce territoire s'engage pour 3 ans à mener des actions de protection de la nature et de renaturation. Alors me direz-vous, où est le problème ? La difficulté, c'est qu'ici, en première couronne autour de Paris, le développement urbain et immobilier est dynamique, et le mot est faible, et va être accéléré par l'arrivée du Grand Paris Express. Paris-Est, Marne et Bois compte en effet 4 gares du futur réseau, à Val-de-Fontenay, à Nogent-le-Perreux et 2 gares à Champigny. Des gares importantes d'interconnexion entre lignes 15 Sud et 15 Est et qui vont maintenant pour les premières arriver très vite, en 2025. Or, leur arrivée n'a pas tout de suite été appréhendée par les élus ni prise en compte dans les projets communaux, en tout cas pas partout. À la gare de Brivilliers-Champigny, le projet Marne-Rome a anticipé l'arrivée du métro, du RER et d'Altival, mais c'est moins vrai dans le centre de Champigny. Alors, anticipation ou pas, la dynamique de développement est forte dans ce territoire et pose la question de la nature en ville et de l'artificialisation des sols. De façon forte, quand on est un territoire engagé pour la nature. À l'heure où un projet de loi est passé en Conseil des ministres le 10 février, et qui définit cette artificialisation comme toute atteinte à la fonction du sol et qui prévoit des dispositifs contraignants pour l'empêcher, un territoire comme Paris-Est, Marne et Bois va devoir concilier son fort développement avec la nature pour laquelle il s'est engagé.
Humeur de ville, l'interview.
Bonjour François Bourvic.
Bonjour Rémi Cambeau, bonjour Lucie Romano.
Je le disais, vous dirigez la SPL MAB. Nous allons évoquer ensemble plusieurs projets qui vont nous conduire notamment à Fontenay-sous-Bois. Vous aménagez en effet à Val-de-Fontenay 3 concessions qui sont imbriquées les unes dans les autres. La principale concerne le quartier des Alouettes, 80 hectares environ, dédiés notamment au tertiaire et au logement, à développer autour d'un pôle gare. S'ajouteront aux lignes de RER existantes, la future ligne 15 Est du Grand Paris Express et le terminus du tram 1. Le plan guide vient tout juste de vous être livré. Racontez-nous ce qu'il a de spécial, François Bourvic, ce plan guide.
Tout à fait. Le plan guide, nous l'avons reçu vendredi dernier, donc il y a quelques jours. Il est tout chaud sorti de l'imprimeur et on en est ravis. C'est l'aboutissement de 2 ans de travail. C'est 500 pages environ. C'est un petit objet, un petit livre d'art contemporain. C'est surtout un travail d'équipe. Nous l'avons mené avec un urbaniste architecte qui s'appelle AWP, qui était accompagné d'un paysagiste allemand, Topotec, qui est renommé, enfin, internationalement réputé, et des plus jeunes accompagnants, Laureline Guilpin, Denis Brochard, Altostep, pour la partie développement durable. Et nous avions choisi d'accueillir en résidence 3 artistes tout au long de cette année de travail, 2019 jusqu'à mi-2020. 3 artistes qui sont Anna Positano, une photographe italienne, un dramaturge français qui s'appelle Mathieu Mével, qui sort son premier roman chez Gallimard, mais c'est une autre affaire, dans quelques semaines, et un trompettiste de Chicago qui s'appelle Rob Mazurek et qui vient de sortir aussi un disque dans un label de jazz de Chicago dont je vous fais grâce du nom, mais je vous invite à aller le podcaster, c'est très intéressant comme musique. Ce travail-là, nous l'avons abouti en février 2020 et nous l'avons ensuite partagé avec les services de la ville de Fontenay-sous-Bois, avec les élus de Fontenay-sous-Bois pendant près d'un an. Et c'est cette dernière mouture, cette V1 corrigée par les services et les élus de Fontenay que nous avons reçue il y a quelques jours.
Vous avez intégré des porteurs de projets pendant un an et vous êtes aussi sur une dynamique d'urbanisme transitoire pour activer le lieu en parallèle.
Tout à fait. Il nous semble important aujourd'hui de ne pas considérer que la ville doit se faire ex nihilo en faisant table rase ni de son passé, ni des acteurs qui sont déjà sur le territoire en présence. Et donc nous avons choisi, depuis maintenant près de 2 ans, d'intégrer à nos démarches de réflexion des gens qui sont un peu généralement à la marge des opérations d'aménagement, donc des artistes, comme je viens de le citer, mais aussi des habitants qui sont porteurs de projets, qui ont beaucoup de choses à nous apporter et qui, généralement, ne sont peu écoutés dans nos opérations. Deux exemples de porteurs de projets fontenaisiens qui nous accompagnent depuis maintenant plusieurs mois. Slimane Amouche, qui crée sa société d'événements culturels en lien avec des projets de développement urbain et qui est d'ailleurs incubée par la SPL depuis quelques semaines, pour 3 ans, et Soumaya Nader, qui est aussi une habitante de Fontenay, qui est une designeuse, si ça se dit, en design urbain, et qui va nous aider à concevoir la maison des projets, à concevoir des mobiliers urbains dans notre zone d'aménagement.
Vous travaillez aussi avec Plateau Urbain sur ce projet et d'autres d'ailleurs.
Tout à fait. Plateau Urbain, c'est des gens que nous connaissons relativement bien depuis plusieurs années. Ils nous accompagnent dans le cadre de nos opérations sur le Val de Fontenay pour l'occupation des locaux que nous avons d'ores et déjà en propriété. Ils nous accompagnent aussi sur nos opérations de revitalisation commerciale, notamment dans le centre-ville de Champigny que nous citions tout à l'heure et sur lequel nous reviendrons peut-être en fin d'interview. Un point sur cette occupation temporaire que nous organisons. Il nous semble important de ne pas laisser vide, quelle que soit la nature des espaces ou des locaux que nous possédons, pendant le temps de leur transformation. On ne peut pas se permettre aujourd'hui en Île-de-France d'avoir des locaux totalement vacants ou mal utilisés ou sous-occupés. Et donc, dès lors que nous possédons un terrain, nous souhaitons l'activer de façon temporaire, de façon relativement souple, agile, mais de trouver une fonction à ces locaux que nous possédons. Fonctions qui peuvent être d'ailleurs des fonctions de jachère par endroit, laisser le sol parfois se reposer. C'est une manière de l'utiliser de façon intelligente et vertueuse.
Vous avez déjà fléché des fonciers pour ça, développer des projets peut-être de jardins, potagers et autres ?
On a fléché des fonciers effectivement qui pourront être support à de l'agriculture urbaine demain. Et nous avons également fléché des endroits que nous souhaitons voir à la fois activer, se reposer. Par exemple, à côté des chantiers de la Société du Grand Paris, que nous citions également dans votre édito, à côté des grands chantiers qui sont relativement source de nuisances, que peuvent être les chantiers de la Société du Grand Paris ou d'Île-de-France Mobilité, qui vont intervenir très fortement sur le pôle gare de Val-de-Fontenay et que nous accompagnons, nous avons souhaité isoler, sanctuariser plusieurs hectares de terrain concomitants, juxtaposés, sur lesquels nous allons pouvoir à la fois adoucir la transition entre ces chantiers et le reste de la ville, et peut-être y accueillir des fonctions de loisirs ou d'activation demain.
Ce sera notamment le travail de la nouvelle maîtrise d'œuvre que vous allez désigner. Alors, vous avez parlé d'AWP, hein, qui était mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre jusqu'alors. Le marché arrivé à terme est relancé. L'appel d'offres est en cours. 4 groupements sont retenus pour le second tour. Alors, vous allez pouvoir me les nommer. Et puis, en tout cas, vous me disiez que vous êtes confiant. Et le maire de Fontenay aussi est confiant de l'issue de ce projet.
Alors, tout à fait. Le projet d'aménagement autour du Val de Fontenay et du quartier des Alouettes à Fontenay-sous-Bois va nous occuper pendant une bonne dizaine d'années, voire une bonne quinzaine d'années. Il nous a semblé important de désigner une maîtrise d'œuvre urbaine pour 6 ans, de manière à pouvoir nous accompagner sur le temps long dans la fabrication de ce quartier de ville. Je ne vais pas vous donner de scoop sur le lauréat de cette consultation, parce qu'elle est en
mars.
Ce sera en mars, exactement. Nous avons hier reçu en audition les 4 équipes du deuxième tour. Donc, c'était une grosse après-midi de travail en mairie de Fontenay avec les élus, des personnalités qualifiées. Les 4 nominés, comme on dit, sont AWP, le sortant, en équipe avec le studio Sanabaldé, Topotech et un certain nombre d'autres bureaux d'études. Deuxième équipe que nous avons retenue à ce deuxième tour, c'est UAPS avec Jacqueline Osti, donc Anne Midepoint, des gens que vous connaissez, j'imagine, très bien. Troisième équipe, c'est l'AUC de Jamel Touche avec Michel Devigne en paysagiste. Une équipe solide également, comme vous le voyez. Dernière équipe, enfin, l'équipe de TVK avec Coloco en paysagiste. Donc nous avons du bon monde, c'est pour ça que nous sommes très confiants effectivement sur l'issue de notre consultation et sur les prochaines années. Nous devrions réussir à faire un très beau projet urbain, quel que soit le lauréat retenu.
Beaucoup de suspense et nous on suivra ça bien sûr sur Cadre de Ville.
Je serai ravie de venir vous en reparler dans quelques semaines.
On va parler d'une autre concession, alors quasiment accolée au pôle gare Val-de-Fontenay, c'est Alouette Est. Elle aussi a une spécificité. Ces 50 dernières années, ce secteur a accueilli bureaux, logements et locaux d'activité qui ne faisaient pas forcément bon ménage. Donc là, vous voulez donner une belle part aux activités productives, ce qui est vraiment une gageure en première couronne. Là-dessus, vous y tenez, c'est ce que veut aussi faire la mairie, c'est-à-dire vraiment faire persister de l'activité productive et même en développer.
Tout à fait. Le pôle de Val-de-Fontenay, il est connu pour son pôle tertiaire. C'est 340 000 m² avec des grands utilisateurs d'ores et déjà installés, la Société Générale, la RATP, la BNP. Il nous semble important aujourd'hui, surtout dans une conjoncture économique peu facile, de conforter ce pôle tertiaire. C'est l'objet de notre principale concession d'aménagement, Val-de-Fontenay, Alouette. À côté de ce pôle tertiaire, qui va être très centré sur les espaces de gare, hein, dans le quartier de gare, qui n'empêche pas d'ailleurs, et je reviens sur votre propos, je fais une toute petite parenthèse, qui ne nous empêchera pas de renaturer ces espaces-là, qui sont très artificialisés aujourd'hui. Il va falloir les désartificialiser et remettre de la nature dedans. Mais ce n'est pas incompatible, je pense, avec le développement du quartier de gare. Je referme cette parenthèse et je reviens sur l'activité productive. Il nous semble important, effectivement, dès lors qu'on est au-delà des 500 mètres du rayon de la gare, c'est-à-dire quand même très bien desservi, hein. 500 mètres, c'est quelques minutes à pied. Il nous semble important de venir conforter un tissu d'activités dites de production, PMI, PME, qui existe déjà, même si c'est dans des immobiliers un peu fragiles du point de vue technique, c'est des entrepôts qui ne sont pas forcément en bon état, fragiles aussi du point de vue de leur valeur locative. Lorsque la spéculation foncière est très importante, cet immobilier-là a tendance à être repoussé un peu plus loin de Paris. Il nous semble important, pour deux raisons, de défendre ce secteur d'activité. La première raison, c'est que si nous l'écartons encore plus de Paris, nous allons continuer de fragiliser notre tissu de PMI-PME. Je ne suis pas sûr que globalement la France ait besoin de fragiliser ce tissu-là. Et le deuxième aspect, c'est qu'il nous semble important de conserver dans les espaces centraux de l'Île-de-France, et Val-de-Fontenay en fait partie, une diversité de tissus économiques à réinventer. C'est le défi qui nous attend. La concession Alouette Est débute seulement maintenant. Il va falloir réinventer cet immobilier de production pour conserver des loyers qui sont adaptés à ce type d'activité et aussi, effectivement, permettre la proximité de logements, de bureaux plus tertiarisés, de mobilité aussi. L'activité, il faut un petit peu de trafic des camions sans aller jusqu'à du semi-remorque, mais il faut des camionnettes. Comment est-ce que tout ça peut être compatible avec des mobilités douces, des mobilités actives, avec des jardins à côté? C'est ce qui nous attend pour la prochaine décennie.
Un mot de la troisième concession, peut-être plus rapide, c'est la ZAC Tassigny-Auroux, un peu plus classique dans ce qu'on peut attendre d'une ZAC, avec programme de bureaux et de logements qui arrive en 2021-2022, donc c'est relativement avancé. En quoi le Covid, les élections un peu retardées ont pu jouer sur votre calendrier ?
On a eu la chance de ne pas trop souffrir, comparé à d'autres secteurs d'activité, de la crise, en tout cas sur l'année 2020. C'est pas la meilleure année qu'on ait faite, néanmoins, elle s'est plutôt bien passée pour nous et on est très heureux. Le chantier a pu se poursuivre, quelques mois de ralentissement, mais le chantier des bureaux a pu se poursuivre. Ce sont des bureaux dessinés par Marcelo Giulia de l'agence Nassau et qui sont... aujourd'hui acheté par Primonial et c'est la Société Générale qui sera utilisateur. Et le chantier des logements réalisé par Cogedim avec Séquence a aussi pu démarrer. Donc du point de vue des chantiers, ça s'est pas trop mal passé. On a été retardé sur deux aspects, mais nous allons rattraper le temps perdu. Le premier aspect, c'est les travaux d'espace public. Nous lançons actuellement la consultation de maîtrise d'œuvre pour notre conception des espaces publics. Il n'est pas trop tard. On a encore quelques mois pour faire les travaux, de manière à ce que le parc, l'avenue piétonne, les abords de nos nouveaux programmes soient réalisés à la livraison de ces programmes immobiliers. On est juste in time, rien de trop. Le deuxième aspect qui a été un peu ralenti, c'est ce que nous voulions faire avec l'école voisine dans l'appropriation de notre transformation de ce site urbain. On avait tout un programme avec les enseignants, avec la direction de l'école pour venir faire un peu participer les écoliers à... sur les palissades de chantier, sur l'accompagnement de la transformation de leur environnement. Et on n'a pas pu le faire tout au long de l'été. On a réussi à avoir une petite initiative avec Bellastock à l'automne. On en est ravis. On est passé entre les gouttes du Covid. Et on espère que l'année 2021 sera plus propice à ce genre d'initiative, car c'est pour nous vraiment c'est plus qu'une sensibilité, c'est une marque de fabrique de toujours faire participer les habitants, ceux qui sont déjà présents dans le site, à la transformation de la ville.
François Bourvic, on a beaucoup parlé de Fontenay et de votre activité principale, aménageur, mais la MAB exerce aussi d'autres métiers, celui de conseiller en mobilité, dont vous faites notamment profiter la ville de Brie-sur-Marne, celui de constructeur d'équipements publics, qui vous occupe en particulier à Nogent-sur-Marne, et celui de foncière de revitalisation, en quelque sorte, à Champigny. Dans ce dernier cas de figure, vous agissez comme peut le faire la CMAS à Paris, alors de manière plus modeste. Vous répondez là à une demande récente de la collectivité. Vous avez acquis 3 locaux commerciaux. Quelles sont vos ambitions en la matière et quel est votre montage ?
Trois éléments là-dessus. Le premier point, c'est une conviction que nous avons que la défense des linéaires commerciaux et du tissu commercial de proximité est indispensable pour que les quartiers de ville sur lesquels nous intervenons, les collectivités, les aménageurs, fonctionnent bien. Et les tissus commerciaux sont très fragiles, avant la crise du Covid et encore plus aujourd'hui. Il faut se donner du temps pour pérenniser les commerçants. De fait, le montage que nous avons choisi, c'est mon deuxième point, avec la ville de Champigny, c'est de nous donner une concession. Ce n'est pas une concession d'aménagement, c'est une concession de revitalisation commerciale et artisanale sur plus de 13 ans, qui nous permettent d'acheter des locaux commerciaux et de défendre les porteurs de projets, les commerçants qui peuvent s'y installer. Le principe étant d'essayer de moduler les loyers. On cherche l'équilibre, on ne cherche pas la rentabilité sur ces locaux que nous achetons. Et sur une longue durée, ça nous permet de pratiquer des loyers qui sont non pas des loyers de marché, mais des loyers plus propices au maintien de l'activité commerciale. Le troisième point, c'est le process de sélection de ces porteurs de projets que nous travaillons également avec des acteurs, là encore, que vous connaissez certainement, comme Plateau Urbain que nous citions tout à l'heure, avec Base Commune et avec Le Sens de la Ville, qui nous accompagnent pour venir trouver, faire émerger, donner leur chance à des porteurs de projets, qu'ils soient locaux, on a des Campinois qui répondent à nos consultations, ou plus largement du territoire au-delà, de manière à leur donner un peu cette chance d'avoir un premier local, qui peut être petit, qui peut être, mais en tout cas des prix modérés qui leur permettent de lancer leur activité. Nous avons ouvert notre première épicerie bio dans un de nos locaux le 8 décembre 2020, ce qui était une gageure et on en est ravis, ça se passe très très bien. Donc on espère que cette première expérience va faire des petits dans les deux autres locaux effectivement que nous venons d'acheter.
Et peut-être dans les autres villes, ça on en reparlera le cas échéant.
Les autres villes sont effectivement très attentives à ce montage et on est ravis de l'écoute qu'elles nous font. À ce propos.
Un dernier mot sur les perspectives de la SPL. D'ailleurs, SPL qui n'est pas adossée à une SEM, donc c'était aussi une des questions, parce qu'on voit bien que dans l'environnement, il y a beaucoup de SPL qui sont aussi des SEM. Est-ce que ça peut être une perspective d'évolution pour l'entreprise ?
C'est une très bonne question, Lucie Romano, je vous en remercie. C'est effectivement une piste sérieuse que nous souhaitons creuser. Ce n'est pas une option qui est aujourd'hui validée et arrêtée, donc c'est une réflexion. Néanmoins, on sait que le statut de SPL est très efficace pour un certain nombre d'interventions, notamment pour les concessions d'aménagement ou les concessions de revitalisation. Néanmoins, c'est un statut qui ne permet pas de faire des montages plus efficients, notamment du point de vue économique, dès lors qu'il faut intervenir réellement comme une foncière ou lorsqu'il faut imbriquer des projets immobiliers. Et ça rejoint d'ailleurs notre préoccupation de désartificialisation des sols. Il faut parfois essayer de regrouper un certain nombre de fonctions sur un même tènement foncier de manière à libérer de l'espace autour. Et cela nécessite parfois des actions de copromotion que le statut de SPL ne permet pas. Donc nous réfléchissons effectivement à ce sujet-là sans pour autant vendre la peau de l'ours avant qu'elle ne soit ni même capturée.
Merci beaucoup François Bourvic. Je rappelle que vous êtes le directeur de la SPL MAB. Humeur de Ville vous donne rendez-vous dans un mois.
Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambeau.